VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 13h à Bamako, 15h à Bujumbura. Ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Direction le Burundi pour démarrer. Un manifestant a été tué ce vendredi par une balle tirée par la police dans le quartier contestataire de Musaga à Bujumbura. C'est ce qu'ont déclaré des témoins et un responsable administratif à l'AFP. D'après ces témoins, quelques 200 personnes ont tenté de se regrouper dans les hauteurs de Musaga, l'un des foyers de la contestation contre un troisième mandat du président. Président Pierre Nkurunziza, qui agite Bujumbura depuis le 26 avril. Ils ont été dispersés par des tirs de la police et l'un des manifestants, blessé à la poitrine, est mort alors qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge. Selon d'autres témoignages, entre 200 et 300 personnes se sont regroupées ce vendredi dans le quartier de Chibitoke, autre haut lieu de la contestation. Dans les différents quartiers contestataires, les manifestants tentant de se rassembler ont été, ces trois derniers jours, immédiatement dispersés par les tirs de la police qui tient les grandes avenues et ratisse jusque dans les moindres ruelles. Toujours au Burundi, pas d'élections législatives et locales aujourd'hui, conformément aux recommandations des chefs d'État de l'Afrique de l'Est qui ont préconisé un report de 6 semaines, vous le savez, concernant les présidentielles et la détermination du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat. Le gouvernement ne changera pas d'avis d'après le porte-parole de la présidence, Willy Nia.
Ce débat autour du mandat du président actuel, que les uns qualifient de troisième et d'autres qualifient de deuxième élu au suffrage universel, eh bien, a été clôturé à Dar es Salaam. Ce n'est pas une question taboue. Vous savez, dans un régime démocratique, les gens continuent à discuter de toutes les questions, les gens continuent à dialoguer. Alors si l'une ou l'autre personne veut avoir des éclaircissements sur un point ou un autre, ce n'est pas exclu. Mais sur la table et discuter sur le fond en ce qui concerne la candidature ou non de l'actuel président de la République, cela a été clôturé à Dar es Salaam.
Concernant le nouveau calendrier que tout le monde attend, quand pensez-vous aboutir à la publication de ce nouveau chronogramme électoral ?
Ce qui est sûr et certain, pour la présidentielle par exemple, elle peut se tenir 2 mois avant échéance ou au plus tard 1 mois avant échéance. L'échéance, c'est le 26 août. Donc le 26 août, un nouveau président de la République devra être investi et devra prêter serment devant les deux chambres du Parlement. Donc avant tout ça, il faut que les élections communales et des députés et les sénatoriales soient tenues pour que le président soit aussi élu au suffrage universel direct et prête serment le 26 août prochain.
Le porte-parole Willy Niamitwe, des propos recueillis par Nicolas Pinault. Au Congo-Brazzaville, des milliers de lycéens ont provoqué d'importants dégâts dans la capitale aujourd'hui en manifestant leur colère contre l'annulation des épreuves du baccalauréat avant d'être dispersés par la police. C'est ce que rapporte l'AFP, Jean-Roger Billon.
À Pointe-Noire, dans le sud du Congo, des saccages similaires à ceux commis dans la capitale ont également été signalés pour les mêmes raisons selon des témoins. Les épreuves du baccalauréat ont commencé mardi dans tout le pays, mais un communiqué lu ce matin sur les médias d'État a annoncé que l'examen était annulé pour cause de fraude massive. Des milliers de candidats ont appris l'annulation alors qu'ils étaient déjà dans leur centre d'examen. Les candidats ont brisé les portes et fenêtres de leurs établissements et ont caillassé des voitures selon des sources proches de la direction de la surveillance du territoire. En fin de matinée, la cour du ministère de l'enseignement primaire et secondaire était jonchée de pierres lancées par les élèves en colère. Dans le parking du ministère, un véhicule caillassé a perdu toutes ses vitres. Une partie du portail de la direction des examens et concours a été défoncée. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Elot Matson Mampouya, a annoncé à la presse qu'une nouvelle date serait fixée ultérieurement pour le baccalauréat.
En République démocratique du Congo voisine, 46 civils ont été condamnés pour violences sexuelles dans le district de Lituri, dans l'est du pays. Eddy Sango.
Les condamnations ont été prononcées à l'issue de 3 semaines d'audiences foraines qui se tiennent dans des coins reculés. 65 prévenus ont comparu lors du plus grand cycle d'audiences de ce genre, organisé depuis la nomination d'une représentante spéciale pour la lutte contre les violences sexuelles. Ils étaient tous accusés d'agressions sexuelles ou de viols commis en 2014 et début 2015 à Ituri, district de la province orientale dont Bunia est le chef-lieu. Le président du tribunal, Alphonse Wonga, a annoncé que 46 accusés ont été condamnés et 13 acquittés. 6 dossiers ont été renvoyés pour approfondissement de l'instruction. Les peines prononcées vont de 7 à 15 ans de prison ferme, selon M. Wonga.
Merci bien, Eddy. La coordination des mouvements de l'Azawad affirme qu'elle signera le 20 juin l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est du moins ce qu'a déclaré ce vendredi à l'AFP Bilal Hag Hachérif. Il est le principal négociateur de la CMA qui fédère les principaux groupes rebelles du Nord malien. C'était à l'issue d'une rencontre à Alger avec la médiation internationale conduite par l'Algérie concernant des arrangements sécuritaires. Cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali a déjà été signée le 15 mai à Bamako par le gouvernement malien, mais la rébellion à dominant Touareg, qui réclamait des discussions supplémentaires, avait refusé de paraffer le texte final. L'accord vise à instaurer une paix durable dans le nord du Mali, qui est tombée à la fin du premier trimestre 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, après la déroute de l'armée face à la rébellion Touareg, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Au Nigeria, explosion d'une bombe au marché de Jimeta à Yola, la capitale de la province d'Adamawa, hier soir. Bilan, au moins 31 morts et 38 blessés. D'après les services d'urgence, personne n'a revendiqué l'attentat, mais ce type d'attaque est généralement attribué à Boko Haram. Le groupe islamiste a intensifié sa campagne depuis l'annonce par le nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, de son intention de transférer la base nigériane d'opération contre Boko Haram à Maiduguri, le berceau de la secte. Le général Buhari était à N'Djamena hier pour remercier le Tchad pour sa contribution à la lutte contre les islamistes et avoir des consultations avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Voici un extrait du communiqué conjoint après les entretiens lus par le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki.
Les deux chefs d'État ont fermement condamné les actes terroristes inhumains commis sur les populations civiles nigériane et celle des pays voisins par des éléments de Boko Haram. Ils ont relevé qu'au nombre de conséquences de l'insécurité ainsi créée figurent les pertes en vies humaines, la destruction des biens et le déplacement des populations dans la région du bassin du lac Tchad. Les deux chefs d'État ont clairement exprimé leur volonté et engagement de collaborer à tous les niveaux pour rendre plus efficace le combat commun qu'ils mènent contre la secte Boko Haram et de ramener ainsi la paix et la sécurité indispensables au développement de la région. Le président Muhammadu Buhari a exprimé à son frère et ami le président Idriss Déby Itno sa reconnaissance pour le rôle déterminant joué par son pays dans l'affaiblissement de cette secte, salué la mémoire des valeureux soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur et présenté ses condoléances à leur famille.
Moussa Faki, ministre tchadien des Affaires étrangères, extrait fourni par FM Liberté, notre radio partenaire à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Ghana, 3 jours de deuil national pour les plus de 150 personnes qui ont péri jeudi dans l'incendie d'une station-service et dans les inondations à Accra, la capitale. Lionel Gaïma.
S'adressant à la presse hier soir, le président John Dramani Mahama fait savoir que le gouvernement allouera une enveloppe de 12 millions de dollars aux secours et aux opérations de reconstruction. C'est à partir de lundi que le pays observera le deuil national de 3 jours en mémoire de victimes de l'incendie et des inondations, a précisé le chef de l'État ghanéen.
Dans le cahier international, la crise au Yémen, le gouvernement yéménite en exil et la rébellion chiite des Houthis, principaux protagonistes de la guerre civile dans le pays, ont accepté officiellement de participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU, provisoirement fixés au 14 juin à Genève. C'est ce qu'affirment aujourd'hui des responsables des deux camps rivaux. D'après l'AFP, les annonces ont été faites par Ezzedine Al-Isbahi, ministre de l'Information du gouvernement en exil, et Daifala Al-Shami, membre du bureau politique du mouvement Ansarouala, dont se réclament les Houthis. Washington attribue à des cyberpirates chinois l'attaque numérique contre l'OPM, l'agence du personnel, qui gère les effectifs du gouvernement et donne des centaines de milliers d'accréditations aux fonctionnaires fédéraux chaque année. Un piratage informatique détecté en avril qui a peut-être affecté jusqu'à 4 millions d'employés du gouvernement fédéral, d'après l'agence. Et voilà pour ce tour d'horizon d'actualité. Je vous retrouve dans exactement 50 minutes pour un autre point. A tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.